Bonjour à chacun. Voilà, toutes choses ayant une fin, nous arrivons ce matin au dernier volet de notre série sur Gédéon, où nous allons parler de la dernière partie de sa vie. Gédéon, comme Dieu l'avait promis, a remporté la victoire sur les Madianites, une victoire retentissante, une victoire de la foi, une victoire qui revient indiscutablement à Dieu, puisque les hommes de Gédéon n'étaient que 300 en face des 135 000 Madianites. De retour au pays, avec les deux rois madianites prisonniers que Gédéon fait périr, Gédéon va ensuite se retrouver confronté à une offre du peuple qu'il va refuser. Ce sera notre premier point, l'offre du peuple et le refus de Gédéon. Et je lis pour ça dans le livre des Juges, chapitre 8, les versets 22 et 23. Juges 8, 22 et 23. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre maître, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils, car tu nous as sauvés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne serai pas votre maître, ni moi, ni mon fils, c'est le Seigneur qui sera votre maître. » Gédéon vient de remporter une grande victoire qui a libéré les Israélites du joug de Madian, une grande victoire qui amène le peuple, sans doute les tribus qui ont participé au combat, à lui proposer la royauté, à lui proposer de dominer sur le peuple, non seulement lui, mais aussi sa descendance. C'est donc une monarchie héréditaire qui lui est offerte. Verset 22, les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Sois notre maître, toi, puis ton fils, puis le fils de ton fils. » On peut aisément comprendre que le peuple veuille remercier Gédéon. Mais derrière cette proposition, apparemment très louable, se cache un véritable problème spirituel. En effet, le peuple ne reconnaît pas que la victoire vient de Dieu. Et il attribue à Gédéon tout le crédit de ce qui vient de se passer. Tu nous as sauvés, car tu nous as sauvés de la main de Madian, dit-il. Ah bon ? C'est Gédéon qui les a sauvés ? Que la mémoire du peuple est courte. Gédéon n'a été qu'un instrument dans les mains de Dieu. La réduction de son armée à 300 hommes ne pouvait laisser aucun doute sur le sujet. Souvenons-nous ici de ce que Dieu avait dit au moment de cette réduction des effectifs. Juges 7, verset 2, le Seigneur dit à Gédéon, « Ta troupe est trop nombreuse pour que je lui livre Madian. Israël pourrait s'en vanter à mes dépens et dire, « C'est ma propre force qui m'a sauvé. » C'est ma propre force qui m'a sauvé. Dieu connaît bien le cœur humain. Alors oui, bien sûr, ici le peuple ne s'attribue pas directement le mérite de la victoire, mais il l'attribue à Gédéon. Et surtout, il ne l'attribue pas à Dieu. Et c'est vraiment là qu'est le problème. Le peuple a-t-il loué Dieu pour la victoire ? L'a-t-il remercié à un moment donné ? S'il l'a fait, le texte n'en dit rien, et nous pouvons très fortement en douter au vu de l'offre qui est faite à Gédéon. Il faut se rendre à l'évidence, Dieu est totalement absent du bilan de la victoire. Pas un mot sur Dieu, pas un mot de reconnaissance exprimé à Dieu. Chers frères et sœurs, cela nous rappelle un danger qui nous guette tous, celui de l'ingratitude à Dieu. Combien il est parfois facile d'oublier de remercier Dieu pour les exaucements à nos prières, pour les bénédictions que nous n'avons pas demandées et que nous avons quand même reçues, pour sa grâce qui est toujours à l'œuvre, pour ses bontés qui se renouvellent chaque matin, pour tout ce qu'il fait dans nos vies et tout ce qu'il accomplit au travers d'elles. Combien il est facile de penser que c'est notre propre force qui nous a bénis, que c'est par notre propre sagesse que nous avons du succès dans nos entreprises. Penser ainsi n'est rien d'autre que de l'orgueil qui oublie et qui ne veut pas penser que tout, même nos compétences, tout nous vient de Dieu. Il peut nous arriver, bien évidemment, d'oublier de remercier Dieu par négligence, par paresse, par ignorance. N'oublions pas de nous en repentir quand nous en prenons conscience. N'oublions pas aussi, car telle est la volonté de Dieu, de le remercier en toutes circonstances, comme l'écrit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Thessaloniciens, « Priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. » Telle est la volonté, telle est pour vous la volonté que Dieu a exprimée en Jésus-Christ. En plus du problème de l'ingratitude du peuple, ce qu'il faut bien noter ici, c'est que la proposition faite à Gédéon traduit aussi et surtout le rejet du règne de Dieu. Pour le peuple, proposer à Gédéon de dominer sur eux, c'est dire indirectement qu'il ne veut pas que Dieu soit leur roi, que Dieu domine sur eux. Depuis sa libération de l'Égypte, Israël est une théocratie, ce qui veut dire que le gouvernement est divin, le gouvernement du peuple est divin. C'est Dieu qui règne ou qui devrait régner sur le peuple. C'est lui qui est le roi d'Israël. Un jour, Israël deviendra une monarchie théocratique, c'est-à-dire qu'il aura un roi humain qui sera soumis à Dieu. Mais dans le calendrier de Dieu, ce jour n'est pas encore là. Pour l'heure, son seul roi, c'est Dieu. Et vouloir faire de Gédéon son roi, c'est rejeter le règne de Dieu. Il y a ici, me semble-t-il, un parallèle intéressant à faire avec nos vies et en particulier avec l'Église. Qui est le chef de l'Église ? Le pasteur ? Les anciens ? Le conseil de l'Église ? Le pape ? Le chef de l'Église, c'est le Christ. C'est lui et lui seul qui en est la tête. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet dans sa lettre aux Colossiens. Il parle du Fils bien-aimé de Dieu. Et tout ce qui suit le concerne. Alors, j'ai gardé le contexte parce que c'est vraiment dommage de couper un si beau passage au milieu. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'accéder à la part d'héritage. Tiens, on en a déjà entendu quelque chose ce matin. La part d'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de l'autorité des ténèbres pour nous transporter dans le royaume de son Fils bien-aimé. C'est de lui dont il s'agit. En qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Il, le Fils bien-aimé, est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création, car c'est en lui, le Fils bien-aimé, que tout a été créé dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Qui est le chef de l'Église ? C'est le Fils bien-aimé de Dieu. C'est la deuxième personne de la Trinité. C'est Jésus, c'est le Christ qui est la tête du corps qui est l'Église. Attention donc à ne pas nous tromper de chef. C'est à Christ et à Christ seul que nous devons soumettre nos vies. Bien sûr, le Christ a donné, nous pouvons le relire dans la lettre aux Éphésiens, des dons et des ministères à son Église, dont font partie, entre autres, les pasteurs et les anciens. Mais ces ministères n'ont pas pour mission de décider par eux-mêmes de la marche à suivre pour l'Église. Ils ont pour mission de discerner par la parole, par la prière en particulier, comment le Christ, qui est la tête de l'Église, veut conduire son Église. La nuance est fondamentale. S'il nous faut reconnaître et respecter les rôles que Dieu donne à chacun, il ne faut pas inverser les rôles. L'Église n'a qu'une seule tête, celle de Christ. Et le danger de mal faire dans ce domaine est tout sauf théorique. Il est bien réel. Et l'histoire de l'Église est remplie d'hommes. Alors je dis d'hommes parce que les femmes n'ont pas eu beaucoup voix au chapitre jusqu'à très récemment. L'histoire de l'Église est remplie d'hommes qui ont été élevés ou bien qui se sont élevés eux-mêmes à des places, à la place qui n'est pas la leur dans l'Église. Et mes amis, ça n'appartient pas qu'à l'histoire de l'Église, c'est malheureusement parfois encore vrai aujourd'hui, même dans certains milieux évangéliques, où certaines personnes se conduisent comme si elles étaient de petits Christ. Comment doit s'exercer l'autorité dans l'Église ? Écoutons ce que Jésus dit à ce sujet dans l'Évangile de Marc, chapitre 10, versets 42 à 45. Jésus les appela et leur dit : Vous savez que ceux qui paraissent gouverner les nations domine sur elles en seigneur et que les grands leur font sentir leur autorité. Il n'en est pas de même parmi vous. Au contraire, quiconque veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Comment doit s'exercer l'autorité dans l'Église ? Quelle est la grandeur dans l'Église ? La réponse de Jésus, c'est le service, et pas la domination comme dans le monde. La grandeur du service, à l'instar du sien, qu'il cite en exemple. Lui qui est venu pour servir et non pour être servi. Gédéon a dû être flatté par l'offre du peuple. La royauté sur un plateau, c'est quand même pas rien. Mais Gédéon sait que telle n'est pas la volonté de Dieu. Israël n'a pas besoin d'un roi, il en a déjà un. Et Gédéon refuse l'offre du peuple en affirmant que c'est le Seigneur qui dominera sur eux. Verset 23. C'est le Seigneur, Yahvé, qui sera votre maître. Ce que Gédéon fait ici en refusant la domination que le peuple lui propose est à mon sens sa plus grande victoire. Ah, si seulement l'histoire s'était arrêtée là. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Et après l'offre du peuple et le refus de Gédéon, nous allons maintenant considérer la demande de Gédéon au peuple, ainsi que les ambiguïtés de la fin de sa vie. C'est notre deuxième point. La demande de Gédéon est l'ambiguïté de la fin de sa vie. Et je lis les versets 24 à 27. Gédéon leur dit, « Je vais vous faire une demande. Donnez-moi chacun un anneau de votre butin. » Les ennemis avaient en effet des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers. » Ils étendirent donc un manteau sur lequel chacun jeta un anneau de son butin. Le poids des anneaux d'or qu'il avait demandé fut de 1700 sicles d'or, sans compter les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian, et sans compter les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville, à Ophra. Là, tout Israël se prostitua avec lui. Ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Que se passe-t-il ensuite? Après avoir refusé l'offre du peuple, Gédéon lui fait une demande. Une demande à laquelle le peuple va accéder volontiers, et d'autant plus facilement qu'il est plein de reconnaissance envers Gédéon. Et que demande Gédéon? Il demande que chacun lui donne un anneau d'or de son butin. Donnez-moi chacun un anneau de votre butin. Et notons ici qu'il est question des Ismaélites et non pas des Madianites. En fait, les Ismaélites, c'est simplement un terme un peu générique pour désigner les commerçants itinérants de cette zone du désert, des zones désertiques de Transjordanie, dont les Madianites faisaient partie. Notons ici que le butin de guerre devait être conséquent. Même si on ne compte qu'un anneau d'or par Madianite, faites le calcul, 135 000 Madianites, ça peut faire pas mal d'or. Un butin conséquent duquel Gédéon demande sa part. C'est ainsi qu'un manteau est jeté à terre et que chacun y met un anneau d'or de son bulletin. Butin. Résultat des courses, 1700 sicles d'or, sans compter les croissants, les pendants d'oreilles et les colliers qui étaient attachés au cou des chameaux. 1700 sicles d'or, ça fait à peu près 20 kilos d'or. À peu près. Plus tout le reste. La part de Gédéon est une belle part. C'est le moins que l'on puisse dire. Ça pourrait presque ressembler à une part royale. Mais pourquoi cette demande? Pourquoi tout cet or? Et la réponse nous est donnée au verset suivant. Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville à Ophra. Alors un éphod, qu'est-ce que c'est? Vous le savez peut-être, l'éphod, ça faisait partie du vêtement du souverain sacrificateur. C'était une sorte de tablier qu'il portait par-dessus les autres habits. C'était fait de fin lin, c'était très travaillé, avec des fils d'or pleins de couleurs, très joli. Le texte biblique dit que c'était une œuvre d'art. Et vous pouvez trouver les détails dans Exode 28 et Exode 39. Alors, une illustration qui vaut ce qu'elle vaut. Vous avez ici le souverain sacrificateur et l'éphod, c'est donc ce tablier, ici. On va retrouver ici le pectoral avec les 12 pierres représentant les 12 tribus d'Israël. Quelque part ici, derrière, on ne sait pas trop, les deux pierres, l'Ourim et le Toumim, qui servaient à désigner, à discerner la volonté de Dieu. Et voilà donc ce fameux éphod. Et c'était avec l'éphod que le souverain sacrificateur entrait dans le tabernacle, dans le lieu saint et puis dans le lieu très saint. C'était avec cet habit-là qu'il se présentait devant Dieu et qu'il représentait le peuple de Dieu. Et c'est aussi avec cet habit-là qu'il allait jeter l'Ourim et le Toumim pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Comment faut-il comprendre cette demande de Gédéon ? On pourrait penser, il semblerait, qu'elle aille de pair avec l'affirmation du verset 23 que c'est Dieu qui dominera sur le peuple. Il semblerait que les intentions de Gédéon soient bonnes. Pourquoi ? Parce qu'on a le sentiment ici que Gédéon souhaite la reprise du culte à l'Éternel. Il semblerait que Gédéon désire que Dieu continue à manifester sa volonté. Mais au fait, qu'en est-il du culte à l'Éternel à cette époque ? Où était le tabernacle ? Est-ce qu'un culte y était rendu ? Pendant toute la période des juges, le tabernacle est dans la ville de Silo. Mais rien dans le livre des juges ne nous indique qu'une activité sacerdotale y était pratiquée. Et il semble plus probable, à la lumière de toute l'idolâtrie dont est rempli le livre des juges, qu'il ne devait pas s'y passer grand-chose, et que s'il s'y passait grand-chose, ce n'était peut-être pas conformément aux instructions données par Dieu. Alors, est-ce que Gédéon désire mettre de l'ordre dans tout ça ? Désire-t-il combler un vide ? Désire-t-il remettre au centre de la vie du peuple le culte au Seigneur ? Il semblerait que ce soit le cas. Il semblerait que ce soit pour cela que Gédéon fait faire un éphod. Dieu s'était déjà révélé par Gédéon. Pourquoi ne le ferait-il pas encore ? Pourquoi ne ferait-il pas encore connaître sa volonté au travers de lui ? Et Gédéon prend les choses en main. Sans doute met-il en place un nouveau sacerdoce, un nouveau système de prêtrise à Ophra. En tout cas, c'est ainsi que je comprends les choses et que je vous propose de les comprendre. Quel est le résultat de cette entreprise ? Le peuple est-il revenu massivement au Seigneur ? Est-il revenu adorer Dieu à Ophra ? Nous lisons au verset 27, où nous avons lu au verset 27, « Gédéon en fit un éphod et le plaça dans sa ville à Ophra. Là, tout Israël se prostitua avec lui. Ce fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. » Dans l'Ancien Testament, quand il est question de prostitution pour Israël, c'est d'infidélité spirituelle dont il s'agit. Le culte qui devait être rendu à Dieu a été régulièrement rendu à des idoles. Et l'expression consacrée dans l'Ancien Testament, c'est la prostitution. Dieu est trompé, l'amour de Dieu est bafoué, on se tourne vers les idoles en lieu de se tourner vers Dieu. Et c'est à l'évidence ce qui se passe ici, avec l'éphod qui devient une idole pour le peuple. Là, tout Israël se prostitua avec lui, c'est-à-dire avec Gédéon. Gédéon qui avait sans doute de bonnes intentions au départ, se retrouve piégé, lui et sa famille. Ce fut un piège pour Gédéon et sa maison. J'aimerais à ce stade faire ressortir deux choses, deux leçons qui me paraissent évidentes ici et que j'aimerais souligner. Et la première, c'est qu'au service du Seigneur, les bonnes intentions ne suffisent pas. Et on pourrait même aller plus loin et dire qu'une bonne intention peut devenir mauvaise ou est mauvaise quand elle ne s'inscrit pas dans la volonté de Dieu. Dieu avait-il mandaté Gédéon pour rétablir le culte à l'Éternel ? Le texte n'en dit en rien, nous devons assumer que non. Ce qui veut dire, si je comprends bien le texte, que Gédéon, de sa propre initiative, avec de bonnes intentions, certes, a mis en place un système sacerdotal parallèle et donc complètement en dehors du cadre voulu par Dieu, complètement en dehors du cadre de la mission que Dieu lui avait confiée. Gédéon a sans doute voulu bien faire, mais il a transgressé la loi de Dieu. Et en agissant ainsi, dans sa désobéissance, il a entraîné le peuple avec lui à se prostituer à cet éphod. Résultat catastrophique. Qu'aurait dû ou qu'aurait pu faire Gédéon ? C'est difficile à dire. Mais peut-être pouvons-nous dire que s'il avait à cœur le rétablissement du culte à l'Éternel, alors il aurait dû s'employer avec toute son énergie à réformer et rétablir le tabernacle et le culte dans le tabernacle à Silo. Et en agissant ainsi, il se serait inscrit dans le cadre de la volonté révélée de Dieu. Chers frères et sœurs, au service du Seigneur, il est bon d'avoir de bonnes intentions. Mais il est important de comprendre qu'elles ne suffisent pas. Il faut toujours qu'elles soient conformes à la volonté du Seigneur. Malgré tout ce que Gédéon a accompli de bien, il n'apportera pas de différence spirituelle importante ou permanente dans la vie du peuple, si ce n'est une influence négative. Et l'éphod est certainement sa plus grande erreur. La deuxième leçon que j'aimerais faire ressortir ici, c'est qu'au service du Seigneur, nos belles déclarations ne suffisent pas. Alors bien sûr, elles sont importantes. La foi, ça se confesse. La foi, ça se témoigne, ça se déclare. Mais si nos paroles, aussi belles soient-elles, ne sont pas suivies d'actes qui les corroborent, elles ne servent pas à grand-chose. Elles sont même contre-productives. Gédéon, au verset 23, a affirmé que c'est Dieu qui régnerait sur Israël. Mais ce qu'il a fait ensuite a complètement contredit ces belles paroles. Pire, ce qu'il a fait ensuite a amené le peuple à la désobéissance. Il faut toujours qu'il y ait une adéquation entre nos paroles et nos actes. Sinon, ça s'appelle de l'hypocrisie, voire du mensonge. Sinon, c'est un contre-témoignage. Et les fruits du contre-témoignage sont mauvais. C'est aux fruits qu'on juge un arbre. C'est aux actes qu'on juge une parole. Oui, au service du Seigneur, nos belles paroles ne suffisent pas. La véracité de nos affirmations, elle se trouve dans notre obéissance à Dieu. Elle se trouve dans nos vies transformées qui cherchent à vivre à la lumière de Dieu. Et au service du Seigneur, dans la vie chrétienne en général, il est essentiel que la théorie et la pratique se rejoignent en permanence, que la vie menée soit conforme aux convictions que nous professons, que les actes que nous accomplissions soient en cohérence avec les paroles de la foi. Nos belles paroles doivent se vérifier par notre obéissance. Cette incohérence qui peut exister et qui existe parfois même dans nos vies, c'est entre autres ce que l'apôtre Paul dénonce au début de sa lettre aux Romains, au chapitre 2, versets 17 à 24, un passage qu'on ne lit pas très souvent. Je vous en fais la lecture. Romains 2, 17 à 24. Il s'agit ici d'Israël, des Juifs de l'époque. On peut facilement transposer ça à nous-mêmes. « Toi qui te donnes le nom de Juif, qui te repose sur la loi, qui met ta fierté en Dieu, qui connaît sa volonté et qui instruit par la loi, sait discerner ce qui est important. » Toi qui es persuadé d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, l'éducateur apte à corriger les gens déraisonnables, à instruire les tout-petits, parce que tu as dans la loi l'essence même de la connaissance et de la vérité. Toi donc qui instruis les autres, tu ne t'instruis pas toi-même ? Toi qui proclames qu'il ne faut pas voler, tu voles. Toi qui dis qu'il ne faut pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as les idoles en abomination, tu commets des sacrilèges. Toi qui mets ta fierté dans la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car c'est à cause de vous qu'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations, comme il est écrit. Quel est le résultat de cette incohérence ? C'est le contre-témoignage, avec ses conséquences dramatiques. Verset 24, « Car c'est à cause de vous qu'on calomnie le nom de Dieu parmi les nations. » Comme il est écrit, quelle responsabilité ! Et nous pouvons certainement aussi parler de contre-témoignage ici pour Gédéon. Nous l'avons dit au verset 27, « Tout Israël se prostitua avec lui. » Quel contre-témoignage ! Et combien nous devons veiller nous-mêmes à ce que nos belles paroles ne soient pas contredites par nos actes. Ce qui pourrait avoir pour conséquence que le nom de Dieu soit calomnié parmi les nations. C'est ici qu'il faut maintenant terminer et parler des ambiguïtés qui ont contribué, qui ont découlé de ce résultat désastreux, qui ont accompagné ce résultat désastreux. C'est difficile de savoir quand ça commence, quand ça s'arrête. Je lis les versets qui terminent le chapitre, versets 28 à 32. Madian fut humilié devant les Israélites et ne releva plus la tête. Le pays fut tranquille pendant 40 ans, pendant les jours de Gédéon. Yérubbaal, c'est le nom de Gédéon, fils de Joas, s'en retourna et resta chez lui. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il avait beaucoup de femmes. Sa concubine qui était à Sichem lui donna aussi un fils, qu'il appela du nom d'Abimélec. Gédéon, fils de Joas, mourut dans une heureuse vieillesse. Il fut enseveli dans le tombeau de Joas, son père, à Ophra, la Biézrite. De quelles ambiguïtés s'agit-il ? Gédéon a refusé la royauté que le peuple lui a offerte en affirmant que c'est Dieu qui dominerait sur le peuple. Et pourtant, nous avons dans le texte plusieurs détails qui nous laissent à penser que Gédéon a vécu comme un roi qu'il a dit ne pas vouloir être. Quels sont ces éléments qui disent la royauté de Gédéon ? Il y a premièrement son harem, digne d'un roi. Gédéon eut 70 fils, tous issus de lui, car il avait beaucoup de femmes, sa concubine qui était à Sichem, etc. Il pouvait arriver à cette époque qu'un Israélite ait 2-3 épouses, ça allait rarement plus loin. Mais la polygamie à cette échelle, à grande échelle, c'était réservé à ceux qui avaient les moyens de s'occuper d'un tel harem. C'était que pour les chefs, pour les rois, eux seuls pouvaient se le permettre. Notons ici que Gédéon semble avoir adopté les standards moraux et le style de vie de l'époque des Cananéens, puisqu'il a non seulement des épouses, mais une concubine à Sichem. Le deuxième élément qui dit la royauté de Gédéon, c'est le nom qu'il donne à un de ses fils. Un de ses fils qu'il nomme Abimélec, ce qui signifie « mon père est roi ». Alors en français, on lit Abimélec, on ne se rend pas trop compte. Mais voilà ce que veut dire Abimélec. Ce qui veut dire que chaque fois que ce garçon prononçait son nom, il proclamait la royauté de son père. Alors, pour être tout à fait honnête, il est aussi possible de comprendre le sens du nom Abimélec comme faisant référence à la paternité de Dieu. Il faut choisir. Les indices me font penser que c'est plutôt la première option. Troisième élément qui dit la royauté de Gédéon, on revient au butin qu'il a accepté. La part qu'il a demandée est énorme. Elle est importante, c'est le moins qu'on puisse dire, et il lui est resté beaucoup, 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 beaucoup d'or après avoir fait l'éphod avec quelques fils d'or et quelques petites choses en or qu'il a mis dessus. Beaucoup d'or qui lui a permis de vivre comme un roi avec ses nombreuses femmes, peut-être ses nombreuses concubines et ses nombreux enfants. Il y aurait d'autres petits détails, mais je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Alors, que faut-il retirer de ce que je viens de dire? Je dirais que finalement, ce que je retire en premier, et peut-être en dernier aussi, c'est que Gédéon nous ressemble finalement beaucoup. Il nous ressemble beaucoup avec toutes ses ambiguïtés. Des ambiguïtés qui caractérisent aussi parfois nos vies, pourtant, tantôt conduites par l'esprit et puis tantôt conduites par la chair. Dans la vie de Gédéon, le meilleur a côtoyé le pire. Mais ne pouvons-nous pas dire la même chose de nos propres vies, parfois? Combien de fois avons-nous trouvé de la duplicité dans notre cœur? Combien de fois nos actes ont-ils contredit ce que nous avions professé, déclaré? Combien de fois nous sommes-nous repentis de quelque chose que nous n'étions pas vraiment prêts à abandonner, à changer? Combien de fois avons-nous dit au Seigneur quelque chose que nous n'avons pas su tenir? Si le meilleur a côtoyé le pire dans la vie de Gédéon, nous devons certainement tous, par souci d'honnêteté, de dire que c'est aussi parfois le cas dans nos propres vies. Ne soyons donc pas trop durs avec Gédéon. D'autant plus que si nous sommes au Seigneur, à l'inverse de lui, nous avons en permanence l'Esprit de Dieu. Ça fait quand même une grande différence. Non, malgré ses ambiguïtés, tout n'est pas à jeter chez Gédéon. D'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux l'a bien compris, puisqu'il va ajouter Gédéon dans sa liste des héros de la foi au chapitre 11. Tout n'est pas à jeter chez Gédéon. Et la vie de Gédéon a de bonnes choses à nous apprendre, sur la foi en particulier, sur la victoire de la foi. C'est ce que nous avons essayé de souligner tout au long de cette série. Alors puissions-nous, comme Gédéon, toujours dépendre de Dieu pour la victoire de la foi qui nous est aussi promise. Puissions-nous donc surtout, malgré nos propres ambiguïtés, toujours vivre de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui relève toujours quand nous chutons. La grâce de Dieu qui nous accompagne toujours sur le chemin de la foi et du service auquel le Seigneur appelle chacun de ses enfants. Amen.